Les éclats de lire, une fête du livre jeunesse qui aura lieu les 25 et 26 mai 2024 au Vigan. Mais c'est aussi une émission de radio. Toujours un grain de sel dans nos vies. Les éclats de lire. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission des éclats de lire. Si vous écoutez ça mercredi 21 février, il est bien 15h30 et non 12h30 Antoine. Je suis aujourd'hui au téléphone avec l'illustrateur François Roca. Bonjour François, vous m'entendez ?
Oui, bonjour. Oui, je vous entends très bien.
Formidable. Vous allez bien ?
Oui, très bien. Je crois qu'on était 12h30, mais on est 15h30.
Et oui, la journée passe plus vite que prévu finalement.
Oui, on est en direct.
On est en direct ce mercredi, ouais. Alors François Roca, vous êtes illustrateur, peintre pour la jeunesse. Illustrateur pour la jeunesse et peintre plutôt, et vous serez aux Éclats de Lire, qui est un festival de littérature jeunesse qui aura lieu au Vigan les 25 et 26 mai de cette année.
Oui.
Vous publiez des livres pour la jeunesse depuis les années 90, ça commence à faire, c'est une belle carrière dont on va pouvoir parler aujourd'hui. Mais pour commencer, quel parcours scolaire ou académique on fait pour devenir François Roca ?
Un parcours assez long, en fait. Non, en fait, ça a commencé assez tôt, parce que je me suis orienté dès le lycée, dans un lycée technique, pour faire un brevet de technicien, je ne sais pas si ça existe encore maintenant, qui s'appelait brevet dessinateur maquettiste, et c'était plutôt pour faire du bon dessinateur encore, je ne sais pas à peu près ce que ça voulait dire, quoique c'est très vaste. Et maquettiste, par contre, je ne voyais pas du tout ce que c'était, la maquette. J'ai été à l'expo des terminales qui exposait, c'était à Lyon. Et là, j'ai vu, en fait, c'est plus pour la publicité. Et je suis tombé en arrêt devant une image qui m'a beaucoup marqué. Je crois que c'est un peu l'élément déclencheur. En fait, c'était une chaussure de ski faite à l'aérographe, qui est un pistolet à peinture à l'époque, et en hyper réaliste. Et était rouge, tout ça, qui a un effet de vitesse et de neige. Et j'ai trouvé ça tellement beau, c'est ça que je veux faire dans la vie, en fait. Une chaussure de ski à l'aérographe.
Mais pourtant, c'est pas du tout ce que vous faites.
Non, c'est pas du tout ce que je fais. Oui, non, mais le chemin est long, hein. Enfin, on est arrivé. Mais c'est déjà un premier pas vers le dessin. Et donc, en fait, c'est plus lié à la publicité. C'était plus des images en lien avec la pub. Ce qui rassurait mes parents aussi, c'était un vrai métier quand même un peu. Et la maquette, en fait, c'est tout ce qui est graphisme, mise en page, voilà, c'est ça. Donc la maquette, j'ai compris que c'était ça. Ouais.
Et ça, vous servir dans les albums, vous participez aux maquettes avec les éditeurs ou pas du tout ?
Bah alors, comme j'ai pas non plus, j'ai fait des études, mais j'ai pas poussé. Et puis c'était avant l'ordinateur, hein. Ouais. Tout ça. On parle d'un autre temps. Là, je te fière. Mais je dirais que je suis un maquettiste frustré, quoi. j'ai pas développé ça, mais je suis sensible et ça je m'intéresse beaucoup. Mais après, je me suis pas du tout formé là-dessus. J'aimerais les faire moi-même, mais en fait, je suis assez pénible avec le graphiste ou le directeur artistique sur les mises en page, quoi.
D'accord.
Mais voilà. Mais bon, moi, c'est après cette illustration. Donc ça, c'est trois ans. À l'issue de ça, j'ai adoré. Après, donc, j'ai fait le niveau supérieur, c'est le BTS. Là, je suis monté à Paris, à Olivier de Serres, qui est l'École nationale supérieure des arts appliqués et métiers d'art. J'ai fait un BTS. Après le BTS supérieur. 2 ans à Paris. Puis là, je me suis quand même rendu compte, c'était super, hein, parce que c'était beaucoup plus, donc on poursuit dans la pub. Mais bon, je me suis rendu compte que la pub, c'était pas mon truc. Vendre des chaussettes, enfin bref, faire des trucs publicitaires, j'avais aucune idée de slogan, de choses. Par contre, tout ce qui était partie dessin m'intéressait énormément. Et donc, à l'issue de ces 2 ans à Paris, je suis revenu à Lyon pour faire l'école Émile Coll, qui était une école privée d'illustration, bande dessinée et dessin animé. Et là, c'était en 3 ans normalement, mais comme j'avais fait pas mal d'études de dessin, j'avais un petit niveau. Donc j'y suis arrivé, j'ai commencé directement en deuxième année. Comme c'était privé, c'était une année de moins à payer. Pour mes parents, c'était quand même cool. Et voilà, et là, c'est là où j'ai vraiment on s'est plus orienté vers, pas forcément la jeunesse, mais en tout cas vers l'illustration, la bande dessinée, dessin animé. Bon, dessin animé, c'était pas mon truc, la bande dessinée non plus, mais tout ce qui était illustration, peinture, ça c'était vraiment... Et c'était un enseignement très académique, on faisait des cours de nu, de peinture, des études documentaires, c'est-à-dire dessiner des objets ou des choses pendant 8 heures à la gouache. Voilà, des choses très techniques, mais bon, qui me plaisaient beaucoup. Et puis après, on pouvait développer son univers au cours de la troisième année.
Et finalement, vous êtes aujourd'hui illustrateur de littérature jeunesse. Qu'est-ce qui vous attire dans la littérature jeunesse? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous spécialiser dedans?
Alors, littérature jeunesse, moi, je suis un peu atypique, parce que enfin, je fais de la littérature jeunesse, je fais des albums petits, mais pas que, en fait. Je suis quand même plutôt pour les grands, quoi. Je suis un peu atypique. Je fais des images, en fait, qui me plaisent, enfin, que j'ai la chance de faire. Mais la jeunesse, enfin, moi, je suis un grand, enfin, je suis pas l'air chiant d'enfant, mais je suis pas pour les petits, quoi. Je fais pas des choses pour les petits, je fais pas du preschool. Moi, c'est à partir de primaire, et au-delà, et bien au-delà. Il n'y a pas de limite après.
Oui, parce que c'est des albums que les adultes lisent pas mal quand même.
Ouais, voilà. Ouais, c'est ça un peu le problème d'ailleurs. C'est pas que pour les enfants. C'est un petit peu souci en plus en plus. C'est pas, il n'y a pas vraiment, oui, c'est normalement, enfin, nos albums commencent à ceux que j'ai fait avec Fred Bernard, on va en parler plus tard.
Ouais.
Comment, enfin, l'étrange âge, c'est un étrange âge où généralement ils arrêtent de lire des albums parce que c'est pour les petits. Donc c'est une mauvaise tranche en fait, très mauvaise tranche d'âge. Mais oui, c'est. Mais voilà, donc je suis pas, oui, c'est de la jeunesse, mais surtout on se raconte des histoires quoi.
C'est pour le plaisir. Et vous, quand vous étiez enfant, vous aviez des lectures?
Des lectures.
C'était
oui,
quoi votre univers et vos références visuelles notamment?
Bah déjà, on n'avait pas trop d'écran déjà, donc ça limitait beaucoup. On s'ennuyait quand même pas mal. Donc pour éviter de s'ennuyer, on lisait et je dessinais beaucoup. Et pas mal quand même, si, enfin, littérature, j'ai beaucoup lu de plein de choses, j'étais verte, rose verte, puis après des romans, enfin, beaucoup. Après, il y a comme cinéma historiquement parlant, on regardait pas trop la télé, parce qu'on avait pas trop le droit, puis il y avait pas grand chose qu'on pouvait regarder, mais quand il y avait des choses qu'on regardait, c'était quand même, c'était la fête. Notamment, avec La Dernière Séance de Monsieur D. Mitchell. Grand souvenir, avec des vieux westerns, des films d'aventure, cowboy, indien. Pirates. Voilà, c'est des choses qui me faisaient bien.
Pas mal de thématiques qu'on va retrouver dans les fameux albums.
Évidemment. Évidemment, avec aussi des trucs sur les Romains, enfin les péplums, j'aimais bien. Enfin voilà, tout. Enfin, que des vieux films, finalement. Parce que les films qui sortaient au cinéma à l'époque, j'avais pas forcément beaucoup au cinéma. Et je les voyais, ils passaient pas à la télé avant quelques années. Après, donc, ce qu'on voyait, c'était surtout des films d'une génération plus antérieure à nous, quoi. Quasi. Moi, les premiers souvenirs que j'ai aussi, c'est les Tarzan, quoi, avec Johnny Westmuller et Maureen O'Sullivan. Des choses irregardables maintenant, bon, en contextualisé, tout ça. Mais j'adorais ça, quoi. Enfin, pour moi, j'étais fan de j'étais,
ouais, c'était l'aventure, en fait, Tarzan, l'île au trésor, c'est vraiment les grandes histoires.
Oui, et les films de guerre aussi. J'ai un peu, parce que ça se dit pas trop, mais quand même, tout ce qui était film de guerre, j'étais assez friand, quoi. Mais bon, très, très, très Seconde Guerre mondiale, quoi. On était comme dans l'après-guerre, si on peut dire. Donc, tout ce qui était jouer plus long, un peu trop loin, bien avant le soldat Ryan. Voilà, tous ces films. Les têtes brûlées, les séries aussi, les grosses séries mythiques, Star Trek. Mais les têtes brûlées, j'adorais ça. Enfin, plein de trucs qui ne parlent pas trop aux jeunes de maintenant.
Et pour revenir un peu à la littérature,
oui,
depuis vos lectures de la bibliothèque rose et verte, depuis vos premiers pas dans l'édition jeunesse dans les années 90 jusqu'à maintenant, les années 2020, vous avez pu voir le paysage évoluer un petit peu?
De la littérature jeunesse? Ah oui, carrément.
Ouais.
Carrément. Et en fait, quand on est sorti de l'école, la dernière école, là où il y a du travail pour les illustrateurs, quand même pas mal, c'est dans l'édition. L'édition et l'édition jeunesse, beaucoup. Donc c'est pour ça que je me suis orienté pour pouvoir faire des livres, pour travailler déjà, pour essayer déjà de démarcher les éditeurs. Mais mon dossier n'était pas spécialement très jeunesse à l'époque. J'étais assez jeune, un peu, mais j'étais fan des Gunchill, pas du tout, un peu torturé, quoi. Donc, mais bon, je me suis un peu adapté, et on a fait le premier livre avec Fred Bernard, qui, bon, je vais en parler deux secondes quand même.
Oui. De toute façon, il était au sujet.
Ce sera une question ultérieure, hein, mais oui. Mais non, Fred, ouais, on s'est rencontrés à l'école et Nicole. Lui venait de Beaune, il fait les Beaux-Arts de Beaune, et puis il voulait faire de la... Alors, je sais pas si il voulait faire de la BD tout de suite, mais en tout cas, faire l'illustration, raconter des histoires. Et on s'est retrouvés sur les bancs de l'école, on était assez potes. Et quand on avait des boulots à faire à deux, en binôme, on se choisissait, fait le portrait de ton voisin, on fait une BD à quatre mains. Et ce qui était bien, c'est qu'en fait, lui, il écrivait des trucs bien, avec un début, un milieu, une fin, une chute, enfin quelque chose qui tenait la route, quoi, vraiment, que je trouvais. Et quand tu débutes dans l'édition, enfin quand on débute dans l'édition jeunesse, soit on présente des images et on attend qu'on nous rappelle en proposant un texte, soit on peut déjà commencer à proposer un projet d'album texte image. Et moi j'écris pas du tout par contre, parce que j'ai arrêté d'écrire depuis. C'est pas mon médium pour m'exprimer, tu vois, carrément, enfin c'est pas du tout mon médium. Donc alors que lui il a toujours dessiné et écrit en même temps. C'est vraiment quelque chose qui fait en. Dans tous tes dessins de gamin, il racontait des histoires, il faisait des bulles, enfin voilà, il racontait des choses. Alors moi, je faisais juste des dessins purs, sans bulles, sans texte, même si ça raconte quelque chose, même pas de la même façon. Et donc, j'avais demandé de faire un texte, si ça lui disait qu'on propose un projet, qu'on essaye quelque chose ensemble. Et comme lui, il aime bien les animaux, lui, c'est un peu un rat des champs. Moi, je suis un rat des villes, hein, j'ai toujours vécu à la ville, à Lyon. Et lui, il était à Savigny-les-Beaune, qui est à côté de Beaune, un petit village. Et au milieu des vignes, et il a toujours été proche de la nature, toujours depuis, et puis toujours, d'ailleurs il est retourné, et au vert, à se mettre au vert, il a bien raison. Et donc voilà, on a fait une histoire, et ça s'est donné La Reine des Fourmis a disparu, qui a été notre premier album ensemble, mon deuxième album que j'ai fait, mais mon premier avec Fred, et qui est sorti en 80, on l'a fait en 95, à peu près, on l'a élaboré en 95, il est sorti en 96, mais 1996, et c'est un peu notre best-seller depuis.
Et là, votre carrière décolle.
Et ben là, ça commence. Ouais.
Et c'est le début d'une longue et fructueuse collaboration avec Fred Bernard, voilà. Qui est probablement pas fini encore. Je ne sais pas si vous avez des projets en cours.
Parce qu'on n'a pas le même rythme, mais oui, c'est une longue collaboration. Oui, il y a bientôt 30 ans.
Alors vous avez... Oula, allô ?
Oui.
Oui, tout va bien. Alors, vous avez fait beaucoup d'albums ensemble, je ne les ai pas comptés, mais il y en a quand même pas mal. Lui, il écrit le texte, c'est des textes longs, pas toujours très faciles, et vous faites les illustrations avec de la peinture à l'huile. Ouais. Mais comment ça se passe quand vous travaillez ensemble? C'est lui qui vous apporte un sujet, ou alors vous convenez ensemble d'une thématique?
Alors, on convient ensemble d'une thématique, plus ou moins, ça dépend, c'est une envie de lui, une idée, ou c'est moi, sur un sujet, une thématique, j'ai envie de faire quelque chose sur... Je sais pas. Bon, les samouraïs, c'était lui. Le Japon, c'était lui. La fille du samouraï, c'était... En fait, on se baladait. Alors, ça peut être un peu... Ça peut pas... On se baladait dans un salon du livre. Et puis, il y avait une sorte de foire avec plein de bouquins dehors, enfin, dans la ville. Et là, on tombe sur un vieux livre d'occasion sur les samouraïs, quoi. Et il me dit, ah, vas-y, achète-le, on fera un truc sur les samouraïs un jour, qui était bien, pas cher. Et il me dit, achète-le, on fera un truc sur les samouraïs un jour. Du coup, je l'ai acheté, puis on a fait un livre sur les samouraïs après, enfin, sur la fille du samouraï, quelques années plus tard. Voilà, ça dépend. C'est
pas forcément la même relation qu'un auteur peut avoir avec son illustrateur. Vous travaillez peut-être plus en étroite collaboration.
Oui.
Et vous connaissez depuis toujours aussi.
On est parti en vacances pas mal de fois ensemble. Oui, on se connaît bien. En salon du livre aussi, moult fois.
Et lui, vu qu'il est également illustrateur, dessinateur, est-ce qu'il n'a pas envie d'interagir dans votre travail?
Bah non, parce que on fait pas du tout la même chose. C'est pas du tout. Enfin, moi, je peins, lui, il dessine. On n'a pas le même trait. Enfin, déjà, lui, il dessine au trait, enfin, c'est du trait. Et moi, c'est de la peinture, il n'y a pas de trait. Enfin, c'est pas du tout la même approche, quoi. Les textes qu'il fait, pour moi, en tout cas, c'est pas les mêmes textes. Même si.
Voilà, oui, quand il écrit, il pense à vos dessins, déjà.
Voilà, c'est ça, ouais, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Même si, quand même, il a quand même sur l'homme bonsaï, il a fait une BD après. Il avait envie de raconter encore plus, d'étoffer l'histoire. Donc, il a fait une BD. Donc, c'est arrivé une fois ou deux. Non, une fois. Donc, deux fois. Il y avait aussi Jeanne Piquini aussi. Il l'a fait aussi. Ouais, voilà, deux fois pour
la vie. Et du coup, au niveau des thématiques, c'est clairement tous les films que vous voyez enfants. Il y a beaucoup, beaucoup les États-Unis que vous explorez.
Pas
sous différentes coutures.
Oui, il est toujours dans le passé. Toujours dans le passé. Parce qu'on aime bien. Parce que ça nous a toujours fait rêver. L'histoire, le futur, non, même si j'aime bien Star Wars, les vieux Star Wars, même les mêmes nouveaux, je comprends rien, mais les vieux. Mais autrement, non, tout ce qui est plus ancien, tous les deux fait rêver. On a les mêmes bases, en fait, on a vu les mêmes films au même moment, pas au même endroit, mais on aurait pu jouer dans la cour de récré après, en refaisant le film qu'on avait vu la veille avec les copains. C'est générationnel, je pense. Mais c'est vraiment, il y a un côté très... moi, je me refais mon film, clairement. Des fois, je parle pas d'image, je parle de film.
C'est pas du travail, en fait, vous vous amusez. Vous faites le cinéma dans votre tête.
On travaille, mais il faut que ce soit agréable. Pour une thématique qui soit agréable. Enfin, non, qui nous intéresse, qui nous passionne, et qui nous a beaucoup, enfin voilà, qui nous a marqué quand on était petit, quoi, je pense. Enfant, ouais. Je crois que c'est ça, en fait, on a eu du plaisir, on a eu tellement de plaisir à voir ces films, ça nous a tellement marqué, enfin, qu'on essaie de prolonger un peu, ou de se refaire le film, quoi. C'est un peu ça, ouais.
Je propose qu'on fasse une pause musicale avant de reprendre tout de suite. Ah oui, avec votre sélection de crooner, il faudra nous expliquer ça.
Bah oui, j'aurais pu vous faire une autre sélection, mais là, j'ai fait quelque chose.
Moi, c'est bien.
But I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big store on the barrow. Why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Yeah, yeah. It's why I'm easy. Yeah, I'm easy like Sunday morning.
Faith No More sur les ondes de Radio Escapade, une musique proposée par François Roca qui sera avec nous aux Éclats de Lyre au mois de mai prochain. Il y a un sifflement, vous m'entendez ? Et non, je crois que j'ai perdu François Roca. On va le rappeler, donc c'était un morceau que François Roca nous a proposé pour cette émission. François Roca est illustrateur pour la jeunesse. On le reçoit aux Éclats de Lyre les 25 et 26 mai. Et avant cette pause musicale, on était en train de parler de sa longue, fructueuse et adorée de tous collaboration avec l'écrivain Fred Bernard. Ensemble, ils font de très beaux albums jeunesse avec des textes un peu longs et puis des sujets pas forcément si simples. Et donc, c'est François Roca qui illustre. Et on me dit qu'il est de nouveau au téléphone.
Bah oui.
Et oui.
Oui, j'ai pas entendu la fin de la chanson, c'est dommage.
Ah, dommage. Bon, en même temps, vous la connaissez. Alors, ouais, on parlait de Fred Bernard, pardon, mais c'est pas le seul auteur avec qui vous travaillez. Et avec d'autres auteurs, par exemple, vous pouvez explorer un peu d'autres univers, comme celui du conte. Vous oui. avez fait assez récemment, je crois, une réécriture de Barbe Bleue.
Oui, voilà.
Un album qui s'appelle À l'ombre de Barbe Bleue.
Voilà. Et on a fait aussi Blanche-Neige.
Ouais, et Blanche-Neige, mais que je n'ai pas lu, mais on peut quand même en parler.
Ouais.
Mais sinon, ouais, à l'ombre de Barbe Bleue, je voulais vous demander comment on fait pour se réapproprier, pour s'emparer de ces contes qui ont été vus et revus.
Oui. En plus, ça, c'est une idée de Charlotte qui voulait travailler dessus. Au début, quand j'ai relu le texte, je dis, mais tu es sûr que c'est vraiment... le texte original est vraiment terrible. Et la place de la femme est très, très, justement, comme à l'époque, j'ai envie de dire. Et donc, l'intérêt, c'était de refaire, c'était de refaire quelque chose de beaucoup plus moderne et d'intéressant, quoi. Et je trouve que ça a très bien réussi. Et puis, moi, c'était un plaisir de refaire. Et aussi de recontextualiser ce Barbe Bleue, parce que ça a toujours été, dans les versions déjà faites, c'est toujours une sorte de... C'est pas moyenâgeux, mais c'est toujours une sorte d'ogre vraiment horrible.
Tandis que là, on a affaire à un vrai dandy.
Mais oui, Alors donc moi, ce qui m'intéressait aussi, l'idée, c'était de faire dans l'univers Jane Austen.
Ouais.
Voilà, parce que j'adore les films de Jane Austen. J'en ai lu aucun, mais j'adore les films.
Moi aussi, effectivement, j'avais un peu reconnu l'ambiance. Ça m'a fait plaisir de trouver ce paysage-là.
Voilà, donc Barbe Bleue, je dirais, c'est Darcy, hein, mais en dark. C'est Dark Darcy, un peu comme « Je suis ton mari ». Non. Et donc, voilà, c'était l'idée. Et j'avais pas fait de livre dans cette d'illustration, d'image, avec ce côté Jane Austen, robe, les gars avec les cols, avec ses cols et les redingotes. Donc, c'est ça qui m'intéressait. Voilà, c'est une lecture de Barbe Bleue. C'était très chouette à faire.
Et donc là, les recherches au niveau des habits, notamment, c'est les films de Jane Austen, enfin, les adaptations.
Bah oui, dans l'idée, oui, quelque chose. Puis tout ce qui est un peu à l'époque. Dans les films, c'est tellement bien fait. Tous les costumes, tout ça. Le costume d'époque, il y a un gros travail de recherche pour savoir un peu comment je vais l'habiller, le dark, Darcy.
Ouais.
Le Barbe Bleue. Sachant que juste la petite Barbe Bleue, ce qui est pas bon, ça passe. c'est intéressant. Et Blanche-Neige, par contre, là, je suis resté plus moyenâgeux quand même. Mais un petit côté Game of Thrones, un petit peu.
Mais quand même, elle a une coupe de cheveux assez jeune.
Mais c'est ça exactement. Il fallait que je trouve une coupe de cheveux à plus compliquée sur Blanche-Neige, parce qu'elle est très connotée. Pas à Walt Disney, pas les cheveux longs, nanana. Et donc j'ai trouvé, et en fait je cherchais, et là je suis tombé sur une idée, enfin j'aime bien, c'est une coupe à la Betty Page, qui est une pin-up des années 50. Donc avec la frange, il y a un petit côté, alors cheveux longs, mais avec la frange, enfin quand j'ai trouvé la coupe de cheveux, enfin dans cette direction-là, je me suis dit, c'est cool, ça j'ai ma Blanche-Neige qui change un peu, sans trop changer, mais qui change et qui est un peu différente des autres. C'est important. Hein. Parce qu'il y a tout en recherche costume et aussi coupe de cheveux.
Et oui, justement, j'allais vous demander comment se passaient ces recherches-là.
Bah oui, parce que moi, je ne suis pas coiffeur. Mais il y a un moment, il faut trouver des coupes de cheveux qui changent, en fait, des brushings. Tout ça, ouais, vu que je te définis très réaliste. Il faut que je m'inspire de la réalité, donc il faut que je regarde. Mais là, le coupe avec la Betty Page, c'était bien.
Et pour essayer les différents habits, les différentes coiffures, vous faites des croquis, des...
Ouais, j'essaye un peu, avant de me lancer, avant de trouver l'uniforme, qui va être reconnaissable le long de toutes les images, parce que si on change d'habit toutes les 100 minutes et de coupe de cheveux, ça va être compliqué pour la ressemblance. Alors que c'est comme des éléments très forts et marqueurs, d'avoir une couleur ou une coupe de cheveux avec une couleur de cheveux aussi pas spécifique. Enfin voilà, moi, même si le visage est un peu, il change beaucoup parce que c'est pas facile de refaire toujours le même visage. Même si des fois quand on se regarde nous-mêmes, des fois on ne se reconnaît pas. Mais même en photo, des fois on dit mais c'est pas moi, c'est horrible. Donc tenir le visage, tenir c'est compliqué. Donc les habits et les coupes de cheveux, les couleurs, ça aide beaucoup. On se dit, pas la même tête, mais la même coupe de cheveux, ça doit être elle, quoi, à peu près.
Donc ça c'est pour les recherches sur les personnages, mais il y a aussi tous les décors.
Oui,
j'imagine que c'est un sacré gros boulot, en fait.
Bah oui, ça me prend du temps de faire un album. C'est comme une mise en scène, c'est vraiment la mise en scène, les couleurs, décors, lumière, habits. Après, des fois, quand je vois des pas trop avec Barbe Bleue, tout ça, mais quand on a fait des livres avec Fred, où des fois, il y a même des batailles, des épopées, avec plein de personnages, je dis, oh là là, j'ai envie de dire, c'est un film à gros budget, quoi. ça prend du temps. C'est du temps, c'est de l'argent. Enfin, non, mais c'est voilà, c'est, on a 15 000. Si on reconstitue une bataille avec, on a l'impression qu'il y a une, ouais, avec des dizaines, dizaines, centaines de combattants.
J'imagine, déjà, au début, il y a un gros moment pour s'approprier le texte, pour bien le lire, ouais. Bien connaître les personnages et les décors.
Oui, puis après, il faut l'oublier.
Des, et puis,
des erreurs.
Mais et non, il y a également les recherches historiques, par exemple. Là, en plus, ouais. Ça mélange deux cultures, c'est une viking chez les Iroquois.
Ah oui.
Là, il y a oui, des recherches sur les vikings à faire et sur les indiens.
Oui.
On voit des drakkars, on voit les armes et tout. Ouais. Enfin, j'imagine qu'il y a un sacré boulot de recherche, ça. Ça se passe comment? Vous allez sur Internet, en bibliothèque, dans les films?
Bon, alors, en bibliothèque, on n'a plus besoin. Avant, j'allais en bibliothèque et en librairie pour trouver des bouquins sur les thématiques abordées. Maintenant, sur Internet, on n'a pas... Puis même, il y a les séries, les vikings, magnifique.
Donc, vous prenez les recherches de quelqu'un d'autre?
Bon, c'est déjà des recherches, recherches. Voilà. C'est une grande chaîne. C'est la grande chaîne de Google, ça. Ouais. Bientôt, l'IA fera beaucoup mieux que moi, mais ce sera encore plus simple. Il fera même l'image. J'ai vu, là, dans Le Monde, il y a eu... Ils ont même illustré un dossier sur les vikings avec une image faite par l'IA sur un gros viking. Même plus d'un illustrateur.
Mais on va continuer quand même à dessiner nous-mêmes. Enfin, pas pour moi, mais pour vous plutôt.
Moi, l'intérêt, c'est que je suis encore des originaux. Je ne travaille pas sur ordi, donc déjà, c'est déjà mieux. Je m'en sors un peu pas trop mal. Parce que je suis un original. Quoi.
Mais justement, on va parler un petit peu de la technique, peut-être juste après une autre pause musicale de Croner.
Here I go again, dreaming. Here I go again. Having a good time, baby. Can't do things, stop me now.
Merci Isaac, dans l'émission des éclats de lire. Merci pour cette proposition, François Roca.
Ah, ça vous plaît?
Moi, j'aime bien Chris Isaac.
Ouais. Ah bah ouais, c'est cool. Ouais, ça me fait rêver. Ah, mais c'est une musique que j'écoute quand je travaille.
Oui.
Pas que j'écoute des trucs bien plus énervés parfois, mais j'écoute vraiment que de la musique quand je bosse. Et ça me pour me déconnecter.
Est-ce que vous avez besoin d'une ambiance musicale particulière pour un type d'album ou un type de travail? Ou c'est aléatoire?
Ça dépend de la journée. De la journée, en fait. Et le matin ou l'après-midi. Enfin, ça dépend de l'humeur, en fait.
Enfin, vous n'écoutez pas des musiques celtiques en faisant un album sur les Vikings?
Non. Par contre, j'ai fait Dracula. J'avais fait un Dracula il n'y a pas si longtemps et j'écoutais la BO de Dracula de Coppola.
Eh oui.
Vachement bien. Mais là, j'étais dans l'ambiance. Un peu pour démarrer tous les matins. Enfin, ouais, plutôt le matin, j'ai écouté un petit coup l'album. Après, ça fait un bout de temps que je n'ai pas re-écouté, mais là, c'était parfait.
Alors, pour faire une petite visite d'atelier, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos outils de travail?
Pas de la peinture.
la peinture à l'huile.
Des brosses, des pinceaux.
Mais comment ça se passe quand vous commencez une image?
Je crayonne avant tout. J'ai un dessin, à la base c'est le dessin. Il faut mettre en place. Mais après avec la peinture, des choses que j'enlève, que je rajoute, que c'est pas du coloriage.
Vous pouvez toujours modifier?
Ah bah c'est toujours une... En plus l'huile c'est quelque chose qui est assez on peut défaire très vite ce qu'on vient de faire, ça va très vite, ou ce qu'on a fait la veille. Et voilà, et racheter, enlever, recommencer, sans cesse, sans fin. Et on finit jamais en fait. Parce qu'il dit un artiste ne finit jamais, il abandonne.
Et vous travaillez sur le format du livre ou c'est plus grand ou...
C'est plus grand, je travaille quand même. Je travaille de plus en plus grand parce que je vois de moins en moins bien. Donc avec l'âge. Donc j'ai des lunettes, mais bon, même avec les lunettes, il faut que je travaille pas sur tous les petits détails, ça commence à devenir compliqué. Il faut changer de lunettes. Mais des fois je regarde des images, même à l'œil nu, je vois, mais comment je faisais ça avant pour faire ça sans lunettes, c'est hallucinant. Donc je travaille assez grand, enfin un peu plus grand quoi. Pas des trucs
ça
immenses.
Peut vous prendre combien de temps pour faire une planche?
Ça peut une semaine, deux semaines.
Ah ouais.
Ça se fait pas en deux minutes quoi.
Mais vous en faites plusieurs en même temps?
Je peux en commencer une, enfin être sur une image, en commencer une autre, revenir sur l'ancienne image pendant que ça sèche. Et les peintures, c'est pareil, être sur plusieurs peintures en même temps. Mais à un moment, il faut les finir, quoi. Parce que si on avance, mais si on finit jamais rien, il faut je peux pas en commencer quatre et plusieurs trous de front.
Alors justement, à quel moment vous êtes satisfait et vous dites là, c'est terminé?
Jamais, on n'est jamais satisfait.
Pourtant, il faut bien rendre à l'éditeur.
Normalement, il faut rendre sa copie. Ouais. Il faut lâcher les crayons. Mais il y a un moment où tu te dis, ça pourrait être mieux, mais bon, on fera mieux la prochaine fois, pas sur la prochaine image. Il y a un moment où il faut arrêter. Après, c'est pas si mauvais que ça. Mais il me faut du temps, mais quand je suis dedans, je suis jamais... Ah non, c'est chronophage. Ouais, c'est chronophage. Ouais, c'est chronophage. Tout, quoi.
Et pour ce qui est des couvertures, est-ce que c'est une image que vous aviez déjà faite, que vous choisissez pour la couverture, ou alors vous en faites une en plus?
Ah non, je trouve ça, c'est l'arnaque. Toujours l'arnaque. Je suis toujours déçu. Ah, l'image est bien, à peu près tu la retrouves dedans. Tu dis, non, c'est facile. Non, je fais toujours une image spécifique pour la couverture. Et maintenant, mais ça fait quelques années, ça fait longtemps maintenant, c'est ma première image. C'est la première image que je fais.
Ah ouais?
Donc je commence. Ah oui, parce qu'une fois que la couverture est bien, j'ai envie de dire, c'est gagné. Entre guillemets, après on déroule, mais il faut que la couverture soit l'image entre guillemets la plus importante de l'album. Il faut qu'on soit avec le titre et en place pour le titre, tout ça. Et c'est une image qui met en place déjà les personnages. C'est une image simple, ça c'est avec des règles, comment dire, de pub. Enfin, c'est de la pub. Hein.
Là, pour le coup, vous retrouvez vos études, vos
films. Oui. C'est mes cours, tous mes trucs de pub que j'ai fait, de com, sont utiles. Ainsi que le graphisme. Parce que généralement, avant, je commençais pas forcément par la première image du livre, mais de l'intérieur, mais je commençais par une image, après je déroulais, puis à un moment, il fallait me dire, il faut quand même que je fasse la couverture, et là, j'ai déjà un peu, comment dire, pas fatigué, parce que c'est un peu un marathon, un album. Enfin, quand c'est sur plusieurs mois, on est un peu fatigué, et se lancer sur l'image la plus importante, si on l'a pas en tête, tu dis ça va venir, on se dit ça va venir au fur et à mesure de l'album, mais pas forcément quoi.
Mais ça veut dire que
je me suis retrouvé à galérer à la fin d'un album, à devoir faire la couverture et vraiment galérer quoi.
Quand vous commencez donc cette image de couverture, vous savez déjà très bien quel univers aura tout l'album en fait.
Ben, je le cherche, en fait. Non, en fait, je ne sais pas quel univers.
J'imaginais que ça se faisait au fur et à mesure.
En fait, je fantasme un univers, mais en fait, la réalité de ce que je fais, ce que je peux faire, est toujours hyper décevante par rapport au fantasme. De tout ce que là que j'ai envie de faire. Mais bon. Mais maintenant, je m'attaque au problème dès le début, quoi. Dès le début. Alors, des fois, c'est une image, certaines images, pour, je sais pas, Calamity Jane, j'ai mis quasiment un mois, j'en ai fait au moins 3-4 différentes. Pas forcément achevées, mais j'en ai commencé au moins 3-4 pistes. Pour en finale, celle que j'avais finie, en fait, me dire qu'il y avait la première image de l'album, en fait, qui était plus intéressante en couverture que les couvertures. Donc, la couverture, je l'ai mise à l'intérieur et j'ai mis l'autre.
Ah, c'est pas si simple.
Ah non, c'est jamais simple. Et puis,
Il y a une couverture que vous regrettez d'avoir faite?
Il y a certaines, ouais, on a fait changer une Rosé l'automate de l'opéra. Ouais, parce que en fait, c'est la compo n'était pas la même. Il y avait beaucoup plus d'espace en haut, les personnages étaient plus petits, tout était plus petit, beaucoup plus sombre, le ciel était sombre, et la typo devait passer en haut. Et les reprises, enfin, je sais plus quoi, ils m'ont fait une proposition, ils ont bidouillé, ils ont éclairci le ciel, grossi. Et du coup, ils ont mis le titre qui est devant les personnages. Enfin bref, c'est pas la même composition, et je me dis, non, c'était pas l'idée de... Mais c'était plus, oui, plus la jeune rose et l'automate. Mais c'était pas du tout, et je trouve que ma couverture est bien meilleure. Plus gothique, plus.
Mais du coup, là, c'est pas vous qui regrettez votre propre travail. C'est la collaboration avec la.
Bah, avec donc, non, mais j'ai accepté, parce que. Ouais. Ils me l'ont pas imposé. Mais ils m'ont dit. Tu te dis, oui, mais alors, si jamais le bouquin marche pas, ils vont dire, ah oui, mais ce qu'on a pas. On n'a pas fait la couverture.
Donc, et voilà, au contraire, est-ce qu'il y a une couverture dont vous êtes particulièrement fier?
Oh bah ouais, il y a quand même quelques-unes qui sont pas trop mal. Moi j'aime bien celle de Calamity Jane.
Après avoir passé autant de temps à la trouver, il fallait bien.
Pas spectaculaire. Après maintenant je me dis, bon le bouquin n'a pas trop mal marché, mais je me dis j'aurais pu faire un truc plus spectaculaire, plus racoleur entre guillemets. C'est ça, on tape dans le racoleur, enfin pas racoleur, mais dans la pub, la com, c'est quand même ça, hein, faut donner envie. Hein. Plus elle sur son cheval, plus fougueux quoi, plus Calamity. Et alors là, pas du tout, elle est là ou pas en train de marcher. Mais en même temps, c'est ça, plus sa vie quoi.
Oui, c'est l'ambiance de l'album. Alors on va peut-être présenter cet album, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure. Ah. Ce sont les lettres que Calamity Jane aurait écrites à sa fille. Là, vous n'êtes pas accompagné d'un auteur, vous avez récupéré un texte qui existait déjà.
Voilà, exactement. Et... On l'a un peu adopté quand même, parce qu'il y a des passages qui ne sont pas très jeunesse. Ouais. Mais il y a un travail, enfin c'est surtout avec Lucette Savier, l'éditrice d'Albert Michel, qui a surtout bossé, mais bon, on a bossé un peu. Elle a la technique pour raccourcir les choses quand même, parce que moi j'ai pas la technique, c'est comme une technique, enfin voilà. Et oui, pour adapter, et puis faire des coupages, en enlever un peu pour que ça s'enchaîne bien. Les lettres, on a changé l'ordre des lettres aussi. Enfin, voilà, il y a tout un petit bidouillage quand même pas mal.
Mais c'est vous qui aviez trouvé cette matière et qui voulez en faire un album?
Bah, disons que je voulais faire quelque chose sur le western, enfin un western, comme méga fan, sans indien, enfin, parce qu'on a déjà fait Cheval Vêtu avant, enfin d'autres avec Fred, mais un western, et Fred n'était pas chaud, et je dis bon bah tant pis, toi, moi je le fais.
Donc vous le faites tout seul?
Bah tout seul.
C'est pas grave.
Bah oui. Non, tout seul, mais en fait, j'avais pas de texte, puis je lui ai dit, bah tu devrais lire ça, c'est... En plus je voulais pas prendre un personnage célèbre. À la base, qui a une petite jeune ou enfin tous les héros du Far West de l'époque là. Mais bon, je suis tombé sur ces lettres et franchement, j'ai adoré les lettres. La dernière phrase est magnifique. Enfin bref, et donc on a pu avoir les droits, voilà, et une traduction aussi. Et donc je me suis attelé à la tâche. C'est l'album où j'ai passé plus de temps. Je crois que j'ai passé 7 mois dessus.
Ah ouais. Enfin,
vraiment, 7 mois quoi, dessus. Ah ouais, j'ai voulu faire un truc top, comme j'étais tout seul en plus. Mais bon, je suis assez content du résultat. Puis les originaux, j'ai fait des grands originaux, là, c'est carrément des formats raisins. Je me suis vraiment éclaté.
Ouais. Bah, merci beaucoup, on écoute le dernier morceau ouais, avant de finir cette interview.
Merci.
Packing all my things for the summer. Lying on my bed, it's a bummer, 'cause I didn't call when I got your number, but I liked you a lot. Slipping on my dress and soft filters. Everybody said you're a killer, but I couldn't stop the way I was feeling the day your record dropped. The day I saw your white Mustang. Your white Mustang. The day I saw your white Mustang. Your white Mustang. Caught up in my dreams and forgetting. I've been acting like I'm again, cause you held me in your arms just a little too tight. That's what I thought. Summer's meant for loving and leaving. I was such a fool for believing that you could change all the ways you've been living, but you just couldn't stop. The day I saw your white Mustang. Your white Mustang. The day I saw your white Mustang. Your white Mustang. And you were revving it, revving it, revving it up. And the sound, it was Friday. And you were getting
nous sommes toujours avec François Roca sur Radio Escapade pour l'émission des Éclats de Lyre. Vous êtes toujours là, François ?
Oui, toujours.
Ah, super. Alors, il nous reste quelques minutes avant de terminer cette émission. J'avais une question, si vous voulez bien. Vous avez publié quelques livres aux États-Unis et il me semble que là-bas, les règles de l'édition sont bien différentes. Pour commencer, vous avez un agent, peut-être que ce n'est pas le cas en France. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette différence-là ?
Oui, j'ai un agent. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de choses avec eux, mais oui, un agent, oui, parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, c'est pas déjà pour, barrière de la langue. Enfin, bon, quoi, on parle un peu anglais, mais bon, quand même pas aussi bien que ça. Et oui, puis toutes les relations entre avec l'éditeur. Non, vaut mieux avoir. Enfin, à l'époque, c'était quasi impossible. Enfin. De faire un livre avec en direct quoi avec une maison d'édition américaine si ça passait pas par un agent. Eux, ils ont la culture de l'agent pour tout quoi. C'est vraiment une culture qu'on n'a pas du tout en France, du moins pas pour l'édition. Après pour le cinéma tout ça, les artistes oui, enfin les artistes, les musiciens oui, mais pas pour l'édition parce que mon gars n'était même pas, donc si en plus on prenait un agent. Mais là-bas ouais, c'est vrai, ils ont vraiment une culture de l'agent. Donc
et au-delà de l'agent, il y a d'autres différences aussi dans le monde de l'édition que vous avez pu constater.
Oui, c'est très 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 en amont. Je faisais des livres, je finissais un an à l'avance tous les dessins et ils sortaient que un an après quoi. Nous on est toujours un peu en flux tendu quoi. On finit jamais un bouquin un an à l'avance.
Ouais.
Généralement moi je finis l'été, avant l'été, pendant l'été avec les vacances scolaires. Enfin avec il s'est imprimé, il sort en octobre, voilà. Donc c'est toujours... Bon, si je finissais au printemps, ils seraient contents, les éditeurs. Mais bon, je suis un peu, toujours un peu à la bourre. Mais voilà. Mais eux, ils sont très, très... Et puis très procéduriers, quoi. J'envoie des crayonnés. Après, il faut que les crayonnés soient validés. S'il y a des retours, ils flippent un peu pour tout. Sur au moins de détails. Alors, c'est juste des crayonnés. En plus, moi, les crayonnés, je faisais des crayonnés pour faire plaisir. Mais en fait, je les suivais pas tant que ça. Parce qu'en fait, ça évolue au fur et à mesure, quoi. Entre le début du crayonné, l'idée de départ et l'arrivée, il y a une grosse, grosse différence.
Et vous, ils voudraient savoir dès le début à quoi ça va ressembler.
Oui, voilà. Après, on exécute, quoi. Alors que moi, mon processus, c'est vraiment, je ne sais pas trop où je pars. Je ne sais même pas, a priori. En plus, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de découvrir au fur et à mesure, quoi. Penser aux images au fur et à mesure. Bon, je sais grosso modo ce que je vais faire, mais pas tant que ça, en fait. C'est vraiment un voyage, quoi. Au début, on ne sait pas trop où on va, et puis on y va, quoi. Puis au fur et à mesure, on trouve des choses. Et puis même une fois qu'on a fini le livre, on trouve d'autres idées. Il y a des choses qui nous viennent en tête. Mais ça, c'est toujours comme ça.
Donc hein. Vous êtes plutôt après, édition française.
Oui, c'est plus simple.
Bah, en France aussi, oui. Vous avez travaillé avec plusieurs éditeurs. Est-ce que vous voyez des différences dans la manière de fonctionner?
Bon, globalement, non. Ça fonctionne toujours à peu près sur le même principe. Après, c'est des questions de temps,
plutôt de tempérament.
Le tempérament. Après, les maisons d'édition. Après, l'édition a un peu changé aussi par rapport au début. Au début où j'ai commencé, oui. Tout le monde a changé. Peut-être pas qu'un peu. Donc, c'est normal. Hein. Mais par rapport à mes profs, quand j'étais à Emilco, qui étaient des illustrateurs, c'était des enseignants, c'était quand même des professionnels, qui déjà regrettaient le monde d'avant. Je peux dire que maintenant, je regrette le monde que j'ai commencé. Mais bon, c'est un principe immuable, je pense. Je dis pas que c'était mieux, hein, mais bon, c'était différent, quoi. Voilà, c'est ça. Mais il y a une grosse différence, ouais. Le nombre de livres, c'est ça aussi. Juste une question de livres, quoi. Juste le nombre de publications par an.
Ça a pris beaucoup d'ampleur.
C'est quand même juste dingue. Ouais, enfin dingue par rapport au moment où j'ai commencé.
Et en parlant de publication, est-ce que vous avez des projets en cours là en ce moment?
Pas d'édition, non, pas cette année. C'est la première fois, quasi bientôt 30 ans, que je ne ferai pas de livre cette année.
D'accord.
J'ai jamais eu raté une rentrée littéraire, mais là cette année, non, j'ai rien du tout, parce que je prépare une expo en fait, perso, qui sera à la rentrée prochaine, octobre. À Paris.
Parce que vous êtes également peintre, vous exposez en galerie. Est-ce que vous pouvez parler un peu aux auditeurs
J'ai envie de dire que c'est mon hobby, la peinture. Non, c'est quelque chose de différent, j'ai toujours fait. J'ai toujours peint, plus ou moins avec le temps, j'avais plus ou moins de temps, mais j'ai commencé d'ailleurs à l'école encore, j'étais encore à l'école Emilco, je vendais mes toiles, je faisais des toiles, pas des toiles, des peintures aussi, des toiles. J'ai commencé à faire des toiles que j'ai vendues sur le marché de la création qui est sur les quais de Saône le dimanche matin. Et je commençais déjà à vendre, et j'en vendais pas mal déjà, ça marchait pas si mal. Ouais. Et j'ai toujours peint, mais j'adore la peinture, quoi, depuis toujours.
Et votre prochaine expo sera toujours dans les mêmes thématiques que ce que j'ai pu voir sur
Internet? Ah non, il y a moins de cow-boys, il y a moins de... Non, là, je peins uniquement plus de Lana Del Rey, voilà. Lana Del Rey, c'est typiquement iconique par rapport à ce que je fais. Je peins toujours des femmes. Je prends un motif, entre guillemets, un sujet, des femmes, et après, ce qui m'intéresse, en fait, c'est peindre des visages, c'est les rendre vivantes. Et là, je fais des grands formats, enfin, plus ou moins grands, mais là, je peux faire des très grands formats, des 1m30 sur 1m, où les personnages, enfin, les femmes sont quasi taille 1 à l'échelle 1, et là, c'est pas du tout le même rapport à l'illustration, qui est quand même beaucoup plus petit, et là, puis je travaille plus les chairs, puis l'expression... c'est ça qui m'intéresse.
Ça vous fait toute une galerie de personnages aussi, enfin personnages féminins du coup.
Oui.
J'ai cru reconnaître une Blanche-Neige avec des tatouages.
Il y en a une, c'est vrai.
Enfin, avec la coupe de cheveux que vous avez choisie pour Blanche-Neige dont on parlait plus tôt dans l'émission.
Exactement, c'est vrai, on peut le rappeler. Ouais. Je n'avais pas pensé quand j'ai fait Blanche-Neige à cette toile qui était que j'avais faite avant. Mais oui, non, c'est... Oui, alors je varie un peu. Et puis, il y a le côté aussi, c'est pas pareil, les souvenirs d'enfance aussi. Il y a le côté les films d'Hitchcock, avec toutes les blondes hitchcockiennes, toutes ses beautés. Et puis aussi les films de David Lynch, aussi avec tous ces personnages féminins. Dans les films de David Lynch, il y a quand même pas mal de personnages féminins, une sorte de blonde hitchcockienne maltraitée par lui. Dans les histoires, c'est un peu toutes ces photographies très américaines aussi quand même. C'est quand même très marqué.
On voit ça. Ouais. Bien,
comme
dirait
ma fille, toi, tu t'es fait avoir par, t'es fait avoir par l'impérialisme américain.
Ouais, merci choix, beaucoup, François Rocaz. Il nous reste 4 minutes. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
En 4 minutes Non, bah, je ne sais pas. Non, j'ai un peu...
Alors, j'ai complètement oublié de parler un peu de votre portrait chinois, mais on avait quand même évoqué Tarzan. Juste, on peut finir sur votre mot préféré.
Le mot... Pourquoi j'ai dit ça? Je ne savais pas quoi dire. Fuck.
Ouais, fuck, pourquoi pas?
Pourquoi pas, déjà? Pourquoi pas? C'est pas très poli, mais bon. Ou non, vous dites merde.
C'est un état d'esprit non, aussi.
Fuck, merde. Non, parce que, en fait, quand je travaille, j'arrête pas de dire ça, parce que je fuck tout le temps.
Et on voit encore l'influence américaine dans tout ça.
Mais c'est ça, oui, c'est ça. Mais encore fuck, c'est cool. Mais bon. Non, mais c'est vrai que mon préféré. Donc, j'avais aucune idée, c'est juste pour la blague à deux balles, mais je regrette un peu maintenant.
Non, il faut pas.
Non, mais j'avais pas mieux. Je dis bon, allez, j'ose.
Bon, en fait, c'est notre portrait chinois que vous envoyez comme ça, si je comprends.
Oui, je suis pas très portrait chinois. Mais après, il paraît qu'il y a l'anti-portrait chinois, je sais plus ce que c'est un autre genre, c'est un même genre.
On pensera à ça pour les prochains éclats de lire, peut-être.
Voilà,
ouais, en attendant de voir les prochains éclats de lire, bah, nous on se revoit au mois de mai, c'est les 25 et 26 mai au Vigan pour les éclats de lire, la fête du livre jeunesse.
Et j'y serai. Ouais, il faut que je note bien, pas que j'oublie.
Oh, vous allez bientôt recevoir les billets de train.
Ah ouais, ok, d'accord.
Bon, merci Parfait. Beaucoup François et à très bientôt.
C'est moi. Merci beaucoup, au revoir.
Ici les eaux fleurissent, rient entre la vie est un délice.
Les éclats de lire, une fête du livre jeunesse qui aura lieu les 25 et 26 mai 2024 au Vigan. Mais c'est aussi une émission de radio.
Toujours un grain de sel dans nos vies.
Les éclats de lire.
On se retrouve le 20 mars avec Claire Cantet.